cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Omer Corlet.
Bonjour.
Omer Corlet, plein de casquettes sur sa tête, journaliste, autre programmateur, etc. Et aussi l'édition, parce que vous avez fondé une maison d'édition qui s'appelle MF. Et cette maison d'édition proposera au début de l'année prochaine, en 2013, un ouvrage consacré aux percussions de Strasbourg, dont on célèbre cette année les déjà 50 ans. Alors peut-être avant de nous parler d'un peu en avant-première de ce qu'il y aura dans, dans cet ouvrage, et évidemment de parler des percussions de Strasbourg, cette aventure d'éditeur, elle était née comment et comment vous la voyez, vous l'avez vue évoluer?
Elle est née en fait au départ d'une revue. C'est avec Bastien Gallet, on avait créé une revue Musique à Falsa. C'est lui qui avait choisi le titre en fait. Je lui avais vu un bouquin du Moyen-Âge. En fait, j'y revenais lui du Magalèche. Et puis on a décidé de créer une société. Donc en 20 minutes, on a été déjà à la bourse, installé notre projet, prendre les dossiers. Et puis on est passé à la BPI directement. Mmh. Et puis on s'est mis à regarder des bouquins. Et moi, je lui ai filé un livre en fait de la musique du Moyen-Âge, dictionnaire de Vendrick, je crois. Et puis dedans, on cherchait des termes. On a fait le groove des instruments, épuisé par le groove des instruments, il était là, et puis il tombe sur Musica Falsa. Et je lui dis, ah bah oui, ça c'est parfait. Voilà, on va prendre ça, c'est une très très bonne idée. Voilà comment est né. Pourquoi Musica Falsa? Parce que, en fait, c'est le paradoxe des altérations musicales de Philippe de Vitry qui indiquait, et on ne les indiquait pas en fait. Et donc, c'était une culture orale qui restituait les bémols et les dièses, pour simplifier. Et les musiciens parlaient à l'époque de musique fausse. Et Philippe de Vitry disait, on ne devrait pas parler de musique fausse, mais de musique vraie. C'est pour les modes, vous savez, il y a toujours comme des altérations pour les modes. Donc, c'est cette raison-là. Et nous, ça nous donnait l'idée de faire toutes les musiques du monde. On voulait sans restriction ne pas se bloquer sur une typologie de musique. C'est surtout ça qui nous avait intéressé. Alors évidemment, la musique contemporaine, mais on a été dans d'autres musiques, puisqu'on a même publié un livre sur le black metal.
Donc, c'est vaste.
Oui, voilà, ça a été très très vaste. Un peu une folie. Et à partir de 2005, avec Eli Conks, on a créé les éditions MF. Alors, on s'est dit qu'on va raccourcir cela, et puis on va laisser les gens mettre ce qu'ils voudront, parce qu'on avait fait une publicité, je me rappelle, un petit peu avant, on avait mis MF, et on disait masculin, féminin, tout ce qu'on voudrait, mezzo forte, tout ce que vous voulez mettre dans les fêtes, vous le mettez.
Alors, avant d'évoquer effectivement les percussions de Strasbourg, leur histoire, ce demi-siècle, et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il y aura dans cet ouvrage, pourquoi d'ailleurs, comment ce sujet est arrivé, cette thématique des percussions de Strasbourg, termine dans un ouvrage des éditions MF?
Alors, c'est une histoire qui remonte pas tellement loin, en fait. C'est autour des années 2000, j'étais rédacteur en chef au Festival d'Aix-en-Provence. Donc, Stéphane Isner avait choisi, avec Philippe Manoury et Pierre Boulez, une thématique autour de la percussion pour le changement du millénaire. Et donc, c'est bizarre, après, percussion, la voix, ça paraissait très loin, très distant, en fait, pour le Festival d'Aix. Mais comme il y avait une Académie européenne de musique, ils ont voulu faire une thématique autour de la percussion. Et donc, ils ont rassemblé, il y avait Trilogourtou, il y avait Chimérami, il y avait beaucoup, beaucoup de traditions de percussion, extra-occidentales, orientales, de toutes les civilisations qu'on veut, puisque c'est un petit peu ça, la percussion. Et puis, la percussion percussion contemporaine. En même temps, puisque une des notations de Pierre Boulez utilise beaucoup la percussion, et puis donc il a invité aussi les ensembles de percussion. Et fatalement, et normalement, il y avait les percussions de Strasbourg, l'ensemble des percussions de Strasbourg, puisqu'avec Boulez, il y a quand même une histoire que je ne connaissais pas au départ, et puis que j'ai découvert au fur et à mesure. Donc c'est cette idée-là qui au départ s'est produite, et puis les percussions de Strasbourg m'ont proposé, en fait, pour le 40e anniversaire, en 2002, Jean-Paul Bernard est venu me voir, m'a demandé « Est-ce que tu ne voudrais pas faire un livre sur les percussions de Strasbourg ?» Mais 2002, on n'était pas encore à train de mettre MF, donc on était encore, on faisait un peu d'édition avec Bastien, mais on était en phase de transition, de savoir comment on allait évoluer. Donc il a fallu attendre encore 10 ans pour se dire « Bon, ok, on reprend le projet, mais pour les 50 ans. » Ce départ pour les 40 ans, et là, on le reprend pour les 50 ans. En fait, parce qu'on avait fait aussi un livre-programme à Aix-en-Provence, où on avait développé la notion de percussion. C'était, je pourrais presque dire, une esquisse, une préfiguration du projet qui se développe maintenant.
Alors on va remonter donc dans le temps, donc 1962, même si en fait c'est pas vraiment la date, on pourrait dire presque officielle, il s'est passé des choses un petit peu avant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on prononce ce nom de percussion de Strasbourg, c'est une institution internationalement reconnue, très liée évidemment à la musique contemporaine, surtout au moment de sa naissance.
Oui.
Donc faisons un petit peu ce voyage en arrière, comment est né cet ensemble indissociable de certains noms, qui soient ceux de Xenakis ou de Pierre Boulez?
On peut dire qu'il y a, d'abord, il y a plusieurs éléments. Mais alors, des percussionnistes comme ça, c'est pas évident. Hein. On n'est pas comme ça. Et donc, en fait, la percussion, c'est très étrange. Par exemple, on peut dire pour Boulez, c'est lié à son histoire Renaud Barreau. Il a travaillé avec Maurice Jarre, et qu'on oublie souvent qu'il est lyonnais, hein, un peu comme Boulez, parce que Boulez a fait ses études en 42, il était encore à Lyon. 43, il va à Paris. Et donc, Maurice Jarre faisait la percussion, et Boulez faisait le piano. Et on peut retrouver des documents de l'INA où on voit les deux, ou du moins on voit Maurice Jarre qui raconte comment il travaillait avec Pierre Boulez. Quand on n'avait pas de cordes, des instruments à cordes, et ben, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait piquer un disque, on faisait de la musique concrète déjà, et on faisait tourner le disque, on avait quelques sons. Donc il y a eu comme ça, presque dire à un moment va naître des formes, des attitudes musicales, une recherche de d'autres sonorités. Je crois que c'est surtout cela, chercher d'autres sonorités, sortir du cadre occidental d'une manière ou d'une autre, et d'inventer. Et donc peut-être qu'à ce moment-là naît quelque chose, une espèce d'alliage dans la tête de Boulez. Et Boulez, vous savez, va très vite va quitter un peu la France, va s'installer à Baden-Baden, sa maison va être là, il va être très proche de Dan Eichingen, et il va commencer à esquisser chez lui aussi une œuvre avec percussion qui va s'appeler Marge. Et en fait, il va y avoir deux orchestres à Strasbourg. C'est ça aussi. Ernestbourg, qui est l'orchestre qui s'occupe de l'orchestre municipal. Il y a trois percussionnistes. Je ne sais pas si c'était des mi-temps ou comment. Et puis, il y avait un deuxième orchestre qui est très rare dans une ville, qui était l'orchestre de la radio, qui était par Charles Bruch, qui avait aussi un orchestre, mais passionné de... Il était passionné de musique contemporaine. On oublie qu'il a été... le mentor de Minkowski, on l'oublie ça, mais il était passionné de musique contemporaine, donc il avait aussi trois percussionnistes. Donc 3 plus 3 égale 6. Voilà comment naît un ensemble de 6 percussionnistes.
Donc là, on est à la fin des années 50, début des années 60.
Oui.
Comment officiellement, j'allais dire, ces 3 plus 3 se réunissent et font 6?
Eh bien, c'est très simple. Il suffit qu'à Dan Eichingen, vous avez quelqu'un qui les invite pour un festival. Et à ce moment-là, ils vont construire une œuvre. Je veux dire qu'il y a eu tout de suite à la base, j'ai plus le nom du patron de Dan Eichingen, mais qui était là, qui s'est occupé d'eux et qui les a menés dans un projet. Puis après, il y a eu des concerts et des œuvres qui ont été commandées et qui se sont élaborées. Il suffit de penser à un certain nombre d'œuvres d'Olivier Messiaen, qui étonnamment auront, Inspector Isoxenem aura 6 percussions. Les haïkai aussi. On a dans le disque, je me demande, c'est les 7 haïkai, il y a les 7 percussions. Donc,
vous précisez qu'il y a un coffret, effectivement.
Il y a le coffret qui accompagne maintenant. Qui préfigure en même temps le travail du livre. Je dirais presque. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, nous. Le sonore, peut-être avant l'écrit. Comment fabriquer du sonore avant l'écrit? Créer une élaboration de cette nature-là. Donc on voit que très vite, une personnalité comme Messiaen va jouer comme auteur. Et puis Pierre Boulez, ils vont enregistrer le marteau 100 mètres. Les trois premiers vraiment vont être dans le marteau 100 mètres, on l'oublie aussi, donc c'est très très important. Boulez développe la percussion, d'abord, il était très passionné. Hein, et donc il a joué ce rôle de catalyseur, cette espèce d'énergie qu'il faut avoir. Batting va jouer ce rôle-là, parce qu'il faut aussi dans l'équipe des entraînants. C'est pas facile. Vous avez 6 personnalités, c'est comme toute collectivité qui se construit, qui sont interparès, à égalité. C'est pas simple, parce qu'ils ont en même temps des caractères, ils s'affirment, puis il faut trouver, ils ont deux métiers en fait. Ils ont le métier de musicien d'orchestre, et à côté, ils sont en train de créer une structure dont ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. C'est comme toujours un peu flou quand on élabore un projet. C'est pas décidé comme ça, il y a pas... Bon, on décide, toc, c'est... Et même on voit bien, Percussion de Strasbourg, Ensemble des Percussions de Strasbourg, on voit que c'est un nom à minimal. Ils ont pas choisi un nom très compliqué, en cherchant, comme nous on a choisi Musica Falsa ou MF, ils ont choisi un nom très factuel. Ça veut dire qu'en fait, quand ils sont créés, du concret. Et le terme le montre bien.
En travaillant rapidement avec effectivement des noms aussi prestigieux que Boulez ou Xenakis, j'imagine que l'aura de cet ensemble, au niveau international, décolle assez rapidement.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ils vont devenir très vite une carte, une signature française à l'étranger. Enfin, après, il y a Boulez, il y a la période de Xenakis, il ne faut pas l'oublier, très importante. Il y a comme ça des périodes qui les ont construites, qui ont été très structurantes dans l'énergie qu'ils ont rapportée, une manière de fonctionner. Et effectivement, très vite, Xenakis ont proposé des œuvres absolument insensées, très puissantes en termes de gestes. Ils vont même inventer un instrument, les six-sept.
C'est ce que j'allais dire. Il y a en plus de ça, c'est-à-dire que non seulement interprète, mais aussi d'une certaine manière de la lutherie presque, enfin, il y a tout ce qui est, enfin tout ce qui est instrumentation, fabrication, de, parce qu'on on est quand même sur des instruments qui sont aussi liés au siècle, même si la percussion, on pourrait dire, est très 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 primitive, très très ancienne. Oui, oui. Mais il y a aussi, alors on peut arriver à une musique concrète, l'industrialisation, etc. Des sonorités qui sont vraiment très très propres au XXe siècle.
En même temps, il y avait une oui, c'est intéressant parce qu'en même temps, il y avait un autre problème qui était, c'était de faire des séries, parce qu'on on oublie quand même que la musique occidentale, qu'elle soit tonale, qu'elle soit sérielle, elle est une série de notes. Donc il a fallu créer des échelles, donc des instruments avec des échelles. Donc il a fallu répercuter entre un bas et un haut. Peu importe que l'échelle soit normée selon la norme occidentale, le principal, c'est d'avoir des échelles. Donc ça aussi, ça a été l'élément très important. C'est que ça veut dire on a cette musique, on pourrait dire qu'elle sort du cadre de la tradition occidentale qu'elle s'est formée depuis le 8e, 9e siècle, on peut dire, dans les monastères, mais elle s'étend, mais en voulant aussi continuer à sa manière de prendre les choses ensemble. Elle les prend, donc elle va créer des échelles. Donc il y a aussi cette partie-là, par exemple les Sixthens, ça va être un système d'échelles aussi, de clavier. Il y a aussi cette notion de clavier dans la percussion qui est présente. Donc il y a toujours ces deux éléments, l'ordre et le désordre. Et c'est toujours comme ça, ces deux tensions qui sont présentes, ce qui fait, je crois, la fascination qui a joué en Occident vis-à-vis de cet instrument et la transmission à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a des concerts qu'ils ont fait au Mexique, et ils en ont fait encore. Et dans des lieux que moi, que j'ai pu voir au Mexique, je dis, évidemment, vous avez envie de faire une musique d'Atoyacan. C'est à côté de Mexico, dans ce temple, dans cette place, la place des morts, dont Messiaen ça va le solliciter dans son imaginaire instrumental. Donc je veux dire que c'est quand même quelque chose de cosmique. On est entre ces deux mondes, primitifs et hyper organisés.
Comment l'ensemble a réussi, puisque là donc on parle du début des années 60-70, qui est effectivement un peu la période clé pour les noms qu'on a cités, qu'ils soient Boulez ou Xenakis, ou bon, Messiaen peut-être un peu la génération d'après, mais comment l'ensemble a réussi à vivre par la suite, après ces pères et ces grands noms, pour justement arriver à créer des répertoires autres, différents, etc. Comment l'ensemble a évolué ?
C'est très simple, je pense que c'est la marque. À un moment donné, quand on va sur le plan international, ils ont créé une marque de fait. Ce n'était pas idiot comme stratégie. C'est peut-être plus difficile sur le plan national, moins évident, mais sur le plan international, tout de suite, ça a été emblématique. Les percussions de Strasbourg. Je crois que c'est cette dimension-là que... Alors là, on peut dire que c'est une très bonne relation entre la partie du ministère de la Culture français à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, qui a en fait aidé les déplacements et qui a permis de défendre une marque, un label français. Je crois que c'est cette astuce-là. Et la marque étant plus forte, et j'ai remarqué ça, c'est une expérience professionnelle que je peux citer, c'est quand la marque est tellement forte, elle imprime les acteurs. Elle est plus forte que les acteurs. Elle les forme, elle les modèle. C'est ça qui est intéressant. C'est quand une marque devient quelque chose qui modèle les acteurs eux-mêmes quand ils arrivent par rapport à la génération, la première génération. Il y a toujours une première génération, une deuxième génération. Il y a des crises, c'est normal. Vous imaginez qu'un ensemble de percussions comme ça. Le premier livre, par exemple, des instruments de percussion qu'avait été Jean-Paul Van der Richet dans le Que sais-je, qui est très intéressant, en 1977. Ça veut dire qu'il y a déjà un certain laps de temps, on essaye déjà de rationaliser, d'articuler, alors qu'il n'y a quasiment rien d'écrit sur la percussion en France. Donc on voit déjà que ça génère, la marque devient forte. C'est ça qui l'impose. Mais j'aurais voulu préciser, j'ai pas parlé bien sûr de la lutherie, j'aurais dû insister sur la lutherie. Effectivement, ce que je crois qui est très intéressant, c'est moi, quand on fait le bouquin, j'ai dit comme ça, il faut absolument qu'on montre le camion. C'est très con, mais le camion. Ouais. Et parce que je dis, c'est la réalité de cela. Alors, comment on a au départ un camion qui est de plus en plus grand parce que les compositeurs ont de plus en plus de besoins, et puis en même temps, la rationalisation, comme j'explique aussi, parce qu'ils ont travaillé avec beaucoup de luthiers pour développer leur matériel, pour le rendre aussi facilement utilisable. Parce qu'il y a aussi le rapport ergonomique de l'instrumentiste à l'instrument. Il n'est pas, je veux dire que l'ergonomie d'un instrument, elle n'est pas, alors quand elle vient d'une autre civilisation, elle est définite, mais vous remarquerez qu'on s'est beaucoup réapproprié les instruments en Europe. Ils ne sont plus tout à fait de la même nature, de la manière dont on se les réapproprie en Europe. C'est-à-dire qu'en même temps, donc, il y a un travail sur les instruments qui est fait par des luthiers. Et donc il y a un travail toujours entre le luthier et l'instrumentiste et le compositeur.
Alors donc évidemment, sur ça, en 50 ans, il s'est passé à plein de choses, que ce soit en termes de répertoire, en termes de casting, etc. Quelles sont un peu, selon vous, rétrospectivement, les différentes périodes, j'allais dire, de cet ensemble? Donc là, on a principalement évoqué, j'allais dire, la naissance et la première décennie. Comment s'est passée la suite jusqu'à aujourd'hui, en 2012?
On peut dire qu'en fait, il y a deux grands groupes. À mon avis, il y a deux grands groupes. Il y a une première période avec Batting et ses copains, qui constitue, on peut dire, jusqu'au seuil des années 80. Puis il y a une période de crise et de transition, je dirais, de transition. Parce que quand vous restez longtemps dans un ensemble...
Est-ce que cette période de crise aussi est palliée peut-être à ce moment-là, à une certaine aussi crise de la musique contemporaine, ou pas spécialement? Comment vous le voyez?
C'est une bonne question. C'est une question qui m'intéresse, mais je ne sais pas si on peut... D'abord, comment vous savez, 50 ans de musique contemporaine, quand on y réfléchit, c'est beaucoup.
C'est peu en même temps.
Ouais, elle sort de ses gonds du monde tonal pour inventer quelque chose d'autre, sans trop savoir. Il y a les mêmes problèmes que l'on a dans la société. Ça veut dire que, il y a des tensions, il y a des personnalités. Il y en a qui sont plus capables de théoriser que d'autres, d'essayer de faire de définir une problématique. Puis vous avez d'autres qui sont de meilleurs interprètes, qui sont plus dans l'utilisation, dans l'usage. Donc c'est très compliqué, en fait. On n'est pas c'est, je dirais, d'un monde de transition. Je pense que c'est le monde sonore qui a complètement changé. Hein. Il ne faut pas se perdre de vue qu'on le monde de l'électricité, souvent, c'est ce qu'aime dire Dufour, le monde de l'électricité qui s'est investi dans le monde de la musique, ça a changé la norme. Et donc, la norme, et donc tout le monde s'est trouvé à penser autrement. Je veux dire qu'on a, je vous dis, c'est un peu comme avant, on avait un satellite, on tournait autour d'un satellite, et brutalement, on s'est découvert qu'il y en avait beaucoup plus d'autres. Je dirais que ce qu'on a pu voir, c'est l'émergence de personnalités. Je veux dire, des courants peut-être, mais très vite, les personnalités ont été déterminantes par rapport aux courants. Ça, je crois que c'est cela qui fait... alors évidemment, on peut situer deux périodes, une période sérielle et puis la période spectrale. En gros, en France, on peut situer dans ces deux manières-là, effectivement. Et peut-être que ça se retrouve. Alors, Xenakis sera peut-être l'homme de la fusion, de la transition, mais d'une transition très, très importante. Il a été le charisme de Xenakis, excusez-moi, de Xenakis, si je peux... Et absolument impressionnant. C'est lui qui... j'avais presque oublié Boulez au départ et j'avais retenu que Xenakis, vous voyez. Donc j'appartiens à notre génération.
Est-ce que cette crise que subit d'une certaine manière l'ensemble dans les années 80 a fait que l'ensemble a failli peut-être cesser de vivre, tout simplement, ou comment ça... Qu'est-ce qui lui a permis de rebondir?
La marque. La force de la marque. C'est quand vous êtes dans une marque et que quand vous faites un concert à l'étranger et que vous voyez les gens qui sont là, qui applaudissent, ça vous requinque, ça vous donne une énergie. Vous vous dites à ce moment-là, ce que je fais a un sens. C'est très bête, hein. L'être humain, le succès extérieur crée l'énergie dans la tête et par-delà tous les conflits, les tensions qu'on peut avoir, on continue parce que la marque est extrêmement forte et on rééquilibre les éléments. Mais c'est 6 personnalités. Le problème, c'est est-ce qu'un leader doit apparaître? Comment fonctionne le leader dans l'ensemble des personnalités? C'est aussi compliqué que cela. On connaît tous cette expérience, mais comme ils sont 6, s'ils étaient 3, peut-être que ça aurait éclaté. Effectivement, je pense que ça aurait éclaté à 3, mais à 6, ça permet tous les jeux possibles. Donc, tous les jeux possibles de tension et de rabibochage et puis de succès. Parce que je crois que c'est toujours le succès qui fait. S'ils n'avaient pas rencontré le succès, ils auraient disparu.
Il faut préciser que ce succès, c'est des concerts dans plus de 70 pays, enfin plus de 1600-1700 concerts. C'est quand même assez considérable pour, pour un créneau, on va dire, musical qui est quand même plutôt assez, qu'on pourrait qualifier de pointu. C'est pas. Ouais. On est quand même du. C'est quand même un succès assez incroyable. Quand on fait le bilan aujourd'hui, à quoi ressemble finalement cet ensemble aujourd'hui en 2012? Il y a toujours cette histoire de marque. Comment vous voyez, vous, j'allais dire, peut-être les 50 prochaines années, d'une certaine manière, en tant que spectateur extérieur, mais en même temps un peu impliqué dans cette histoire?
La force qu'ils ont, c'est qu'ils ont fabriqué un répertoire qui va aider à la survie, pour survivre, pour vivre et continuer. Je crois que quand vous avez Les Noirs des Étoiles de Gérard Griset, vous le jouez n'importe où dans le monde, vous êtes tranquille. Vous jouez les Pléiades, c'est pareil. Vous avez des œuvres emblématiques très fortes. Donc, ce qui leur permet, effectivement, par-delà ce qu'ils peuvent rencontrer, d'interrogation. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se dire que je pense toujours à Ionisation, qui est pour très instrumentiste, qu'ils l'ont réduit à 6. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont généré autour du chiffre 6 quelque chose. Alors après, peut-être que ça va évoluer autrement, peut-être, mais je pense que la marque a sa force et donc elle peut générer toutes les entrées possibles. On pourrait très bien avoir 6 musiciens autrement, et on a pu le voir, mais la marque est telle qu'on entre dans un cadre, dans un répertoire. Ça veut dire qu'ils ont construit le répertoire, ils ont construit la marque, donc à la limite, je dirais qu'ils soient 6 autres personnes. Ils sont dans un répertoire, ils sont dans une marque, donc ils retrouveront les gestes. Vous savez, quand vous regardez une partition, les musiciens, on le connaît, ça, les traits d'orchestre, les traits qui ont été marqués par tel chef d'orchestre ou par tel chef de pupitre. Et de la même manière, pour les percussions, quand vous reprenez une partition, vous avez les traits qui sont marqués, les traits, les gestes. Donc, ils ne vont pas réapprendre tout. Ça reste, je dirais, ils ont réussi en termes de... leur réussite, c'est une marque, un répertoire. À partir de ce moment-là, vous avez une marque, un répertoire, des partitions qui sont derrière, avec des annotations et des enregistrements. Vous êtes dans une situation où vous avez créé une espèce d'éternité. Ils pourraient même, prenons l'hypothèse, ils disparaissent maintenant. Pas arrivé, les accidents. Je suis sûr que moi, dans 50 ans ou 60 ans plus tard, vous aurez quelqu'un qui aura l'idée de les faire revivre. Parce qu'il y a la marque, il y a le répertoire, il y a des enregistrements, il y a les partitions avec les traits, donc les traits d'orchestre, les traits d'écriture, les manières de faire, les manières de réaliser quelque chose, et je suis sûr que ça marchera. Et j'ai un exemple, ce qui est intéressant, c'est peut-être Erevan de Hugues Dufour, qui est une œuvre, quand je l'avais entendue la première fois, ne semblait même pas marcher. Et puis je l'ai rencontré, réentendu, une dizaine d'années après, dirigé par Lorraine Vaillancourt. C'était au festival automne en Normandie. Et donc j'avais réentendu l'œuvre, et là je m'étais dit, absolument, c'est extraordinaire. L'œuvre revit. Je vois qu'ils ont trouvé, il y a un chef, ils ont trouvé le truc. Là, c'était 6 plus 1. C'était paradoxalement, parce qu'il fallait avoir quelqu'un qui soit une de pont pour pouvoir faire refonctionner l'objet. Mais je me suis dit, voilà, ça, maintenant, j'ai une certitude, ils ont réussi à dépasser encore une autre étape. Donc, ils pourront peut-être parfois avoir un chef qui dirige les 6 percussions. Pourquoi pas? Alors ça, c'est... Mais ils ont fait le répertoire. Ce qui est important, c'est qu'il fallait faire, je pense, entre 1962 et aujourd'hui, le répertoire. Ça a été, je crois, une des forces. Parce qu'à ce moment-là, maintenant, vous savez, la musique, on appelle sonate quelque chose qui sonne, qui s'appelait sonate, qui avait un nom comme ça. Hein. Les noms sont parfois très bêtes, mais comment les noms deviennent des marques, des entités en elles-mêmes. Symphonie, c'est devenu une entité. Et les percussions de Strasbourg, par leur modalité, les six percussionnistes, ils ont inventé une modalité, et c'est là-dessus que je crois qu'ils ont toutes les chances de perdurer. Voilà leur force. Elle est plus forte qu'eux. Ils ont créé quelque chose de plus fort qu'eux. C'est ça qui est bien.
Alors cet ouvrage que vous allez éditer donc début 2013, donc la rédaction a été confiée à Stéphane Roth, qui est un musicologue, c'est cela ?
Oui, parce qu'on avait, c'est une rencontre que j'ai fait avec lui. Alors ce qui m'intéressait, c'est qu'il travaillait sur les traductions de livres sur la photographie d'un auteur très important, Mitchell, pour le monde de la photo. Je suis passionné de photo, hein. J'ai un autre élément, c'est une passion. Je ne prends jamais de photos, mais je suis passionné de photo. Et donc je connaissais très bien les travaux de Mitchell. Et puis on s'est rencontrés sur un projet Kaya Saraiho, qu'on est en train de finir, qui est un ensemble des écrits de Kaya Saraiho, de la compositrice finlandaise. Et en même temps, je me disais, tiens, est-ce que je pourrais me lancer dans l'écriture de ce livre ? J'ai hésité. Bastien me disait qu'il fallait mieux penser autrement le problème. Et il faut que j'ai un peu d'extériorité parce que j'aurai beaucoup de choses à gérer. Alors je lui dis, oui, effectivement, tu as raison. Si je m'implique comme ça, ça va compliquer. Puis bon, j'avais fait le livre d'entretien avec Philippe Manoury récemment. Donc ça aussi, c'était pour moi important de finir ce petit livre parce que c'était en même temps créer une deuxième étape. Parce que Philippe a beaucoup travaillé aussi la percussion, donc ça c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Donc en fait, Philippe Roth m'est apparu très vite comme le personnage idéal.
Parce Stéphane Roth, pas Philippe Roth. Philippe.
Oh là, oui, excusez-moi,
le bruit. C'est plus intéressant.
Oui, parce qu'en fait, c'est très drôle parce que Philippe Roth, je l'ai rencontré et j'avais fait un concert avec lui. Donc pour lui, c'était à Aix-en-Provence, avec le romancier américain. C'est ça, oui.
Et donc cet ouvrage, vous l'avez voulu comment ? C'est-à-dire que donc, j'imagine évidemment un aspect psychologique, historique, en termes de documents, visuellement.
Oui.
Qu'est-ce qu'on pourra voir dedans ? Vous avez récupéré des archives, des pièces rares peut-être ?
Bah oui, justement, il y a une partie qui est un peu présente sur le coffret, que les gens pourront voir, qui sont absolument étonnantes comme photos. Évidemment, comme j'aime la photo, je me dis de faire un beau livre de photos, d'essayer d'expliquer ou de trouver le geste qui fait ce que c'est que la percussion. Par de là, je me dis peut-être que là, il y a quelque chose qu'on peut développer, donc on a beaucoup d'archives où on voit des configurations, des situations inattendues. Donc c'était de faire un beau livre de ce rapport, parce que la percussion, c'est quelque chose de très physique, de très visuel et d'instantané. Vous savez, le geste du percussionniste, c'est quelque chose d'instantané qui est très fort dans la manière de le concevoir. Et donc, peut-être que la photo a un problème, puisque c'est se trouver ce moment de l'instantané, de ce moment inouï, inédit. Et c'est ça qui, je crois, qui passionne les gens. C'est qu'ils voient le corps en action, le geste du corps en action, et de se dire il y a presque une identité entre leur corps et le geste, entre ce qu'ils entendent, le corps sonore. Ça, c'est chose importante. Et la photo peut rendre, je crois, cet élément-là. Donc, il y aura un livre avec des entretiens aussi. Il y a toute une série d'entretiens. Alors, évidemment, il y a des compositeurs qu'on n'a plus, comme Gérard Griset. C'est triste pour moi, mais on a fait un bouquin déjà d'entretien, ou un livre avec Gérard Griset. Donc, on a sauvé avec les écrits de Gérard Griset. Donc, c'est bien. J'aurais bien aimé avoir Xenakis, ça, c'est effectivement, parce que j'aurais voulu on a fait une fois avec Bastien un entretien avec Xenakis. On aurait bien aimé approfondir. Donc, mais on a beaucoup de personnalités. On a Mache, on a Michael Lévinas, on a Hugues Dufour, on a Rome Anouri qui nous explique sous un autre angle. Donc on a pas mal de personnalités qui sont là, qui vont faire la deuxième partie, je dirais, celle où de les voir comment chacun réfléchit dans la situation, dans le bain de la percussion. Et là, on se rend compte à quel point ça les a fait énormément cogiter.
Lors de concerts, quel est le concert des percussions de Strasbourg qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y en a en particulier?
Je vais peut-être citer trois œuvres. J'ai trois ou quatre œuvres. Les Pléiades, qui m'a beaucoup marqué. En même temps, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été Bibi Lolo, que j'ai de Marc Monet, qui est une œuvre qui fonctionne plus sur l'idée du virtuel. Presque, on abolit le geste, il y a une interface électronique entre le geste, la résonance. Ça me plaît beaucoup. Bien sûr, Hugues Dufour et Revent, qui m'a beaucoup marqué. Qui m'a beaucoup interrogé, et puis Le Noir de l'Étoile, qui était pour moi de Gérard Griset, quelque chose d'essayer de trouver le côté cosmique des choses. On est bête, hein, vous savez, on est des humains, on est terre à terre, mais on a envie, on a un côté primaire en même temps. J'aime bien, moi, maintenir toujours ce côté où on a du raisonnement, et puis ce côté un peu bête, animal, d'aimer quelque chose qui nous met en relation avec quelque chose presque de chamanique. C'est peut-être ça qui parfois me plaît dans la percussion, ce double mélange. Donc la pièce de Gérard Griset, l'œuvre de Gérard Griset me paraît très forte. En fait, ce que j'aime, c'est que les œuvres qui me racontent une grande histoire, qui me bluffent, on aime bien être bluffé, on aime bien avoir des histoires, qui nous construit une relation entre notre corps, nos oreilles et le monde. Et il y a des compositeurs qui ont compris qu'on peut obtenir cette énergie-là, qui sont dans cette énergie-là.
Après cet ouvrage, quels sont les projets de votre maison d'édition MF, soit très très lointain, soit peut-être plus proche ?
dans le traitement. Bah là, justement, on vient de sortir un livre qui m'a beaucoup intéressé, mais avec, voyez, je suis mélangé avec Philippe Roth, Philippe Langlois. Vous voyez, parfois les noms, donc à quel point peuvent se superposer. Et Philippe Langlois a fait un livre sur le rapport entre l'histoire du cinéma, et l'histoire de la bande sonore, mais la bande sonore électroacoustique, en posant l'hypothèse que, et qui est assez remarquable, c'est moi, me passionne, moi, c'est qu'il y a une histoire du cinéma qui est concomitante à l'invention de la musique électroacoustique. Alors, si on dit que c'est 1920, le cinéma parlant, 1925-26, et que vous dites qu'il y a... on peut écouter Jazz, de ce film absolument extraordinaire, en faisant attention à la bande sonore, parce que c'est, on a l'impression d'un montage déjà. Et donc la question du montage sonore, la question de la fabrication du sonore, de l'artificiel, du son artificiel, du son amplifié, tous ces éléments-là, pour moi, m'intéressent. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait une convergence de réflexion entre... C'est peut-être ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, c'est, pour revenir là-dessus, sur un thème de, je dirais, du côté archaïque, du côté primaire, premier, j'aime bien le thème d'art premier. Je trouve par exemple fabuleux ce musée d'art premier où on a les instruments au milieu. Extraordinaire comme idée, c'est fabuleux, toutes les civilisations, et puis en même temps, quelque chose qui est complètement hypothétique, virtuel, où on se projette, où on essaye de sortir de l'analogie avec le réel. On essaye d'un... Ça, peut-être, moi, c'est double casquette. Alors, dans les prochains livres que l'on a, il y a des livres d'entretien que je voudrais faire. Un, entre autres, je voudrais que Stéphane fasse avec Kaya Sarayao, qui viendrait compléter le petit livre du livre qu'on a fait sur ses écrits. Ça me paraît très, très important. Et puis, évidemment, vous mettez, parce qu'en plus, il y a aussi un travail de Monel, qui est un musicologue, que Stéphane Roth a traduit. Ça s'intéresse beaucoup parce qu'il a... Alors là, c'est les Anglais, la musicologie anglaise. Là, c'est vraiment un livrage purement musicologique. Mais il me plaît, parce qu'il y a quelque chose qui est très drôle, c'est que cet Anglais travaille sur une figure, le galop de cheval. Les Anglais aiment beaucoup les chevaux, quand on sait. Et il a fait un travail, que ce musicologue anglais, à travers l'histoire de la musique occidentale du 19e siècle, et avec, en cherchant des caractéristiques. C'est très constructiviste, si vous voulez, dans la manière de faire. Bon, il y a beaucoup d'extraits de partitions, donc ce sera peut-être pas un ouvrage facile à lire. Mais en même temps, il y a cet élément très, très, très drôle sur le galop du cheval, qui est une métaphore qu'on trouve chez Maybridge, je pensais à cette image de Maybridge, mais de se dire qu'elle se trouve aussi dans la musique. Pensons au premier galop que l'on a dans le combat de Tancrède et Clorin de Monteverdi. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et comment on peut faire, là aussi, de l'abstraction pure, et puis quelque chose d'extrêmement factuel, d'extrêmement terre à terre, le galop d'un cheval. Voilà, c'est des livres qui, moi, m'excitent dans... Puis bon, on fait des choses dans la littérature. Hein. On a une partie littéraire très, très importante avec Bastien, qu'on aime beaucoup, parce qu'on a aussi, on cherche de la littérature expérimentale. Des gens qui écrivent autrement que dans l'écriture normale, normalisée que l'on a, qui essaient d'inventer quelque chose d'autre.
Eh bien, en attendant, donc, on indiquera sur Cobuzz dès que sortira cet ouvrage consacré aux percussions de Strasbourg, qui fête donc cette année ses 50 ans. Merci Omer Corlet.
Merci.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.